Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque, sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona.
Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 46.
Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité.
Vous l'avez peut-être noté si vous avez écouté l'épisode précédent, à partir de maintenant, le podcast du marketing, c'est un épisode toutes les semaines, le jeudi matin. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Duneau, la directrice marketing de Volvo Car France. Elle me fait l'amitié de venir sur le podcast du marketing pour nous parler d'une stratégie de communication qui lui est chère et qui est au cœur de l'ADN de Volvo. Il s'agit de disruption. Et ce que je trouve absolument passionnant dans cette stratégie et dans la vision que Nathalie en a, c'est que c'est directement applicable à une PME ou une activité d'indépendant. En fait, c'est une stratégie qui est faite pour les petits budgets et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Alors, je vous conseille de vous mettre à l'aise et de tendre l'oreille parce que Nathalie vous donne toutes les clés de la stratégie de disruption de Volvo et de comment l'appliquer à votre activité. Allez, on accueille tout de suite Nathalie Duneau. Alors bonjour Nathalie, je suis super heureuse de vous recevoir sur le podcast du marketing. Bienvenue.
Bonjour Estelle, merci.
Bonjour. Est-ce que je peux vous demander, je vous ai présenté à l'instant dans mon introduction, mais est-ce que je peux vous demander de nous dire avec vos mots qui vous êtes, ce que vous faites, votre parcours, voilà.
Bien sûr. Effectivement, à l'heure actuelle, je suis directeur marketing chez Volvo Car France, donc en charge de l'ensemble des activités communication, définition produits et offres. Et puis, avant d'arriver chez Volvo Car, j'ai été auparavant à la direction marketing dans un groupe hôtelier, hôtellerie et restauration, qui s'appelle Louvre-Hôtel. Et puis, avant, j'étais du côté obscur de la force, on va dire. Donc, j'ai passé auparavant une quinzaine d'années en agence de communication, donc à travailler sur différents comptes, notamment automobile, mais pas que, et principalement dans les groupes BDDP, TBWA et puis BBDO. Voilà.
Vraiment un parcours assez, j'allais dire atypique, je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas très complet, aussi bien côté publicité que côté annonceur, et sur des marchés a priori assez divers et variés. Génial. L'objectif de cette discussion aujourd'hui, c'est de parler d'un thème dont on parle finalement, je trouve, assez peu et qui pourtant est extrêmement intéressant. Et notamment, on va le voir quand on a des budgets assez restreints ou des gros budgets, puisque c'est le cas pour vous. Aujourd'hui, on voulait parler de disruption. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, en deux mots, qu'est-ce que c'est que la disruption ?
Moi, je vais reprendre des définitions telles que je les ai apprises en ayant la chance de travailler à proximité de Jean-Marie Dru chez BDDP. C'est que la disruption, ça va se définir par le fait d'aller à chercher des idées de marketing et de communication qui sont à l'encontre des conventions, qui sont différentes des conventions du marché, et ceci dans le but d'émerger par des moyens différents que des normes renforts budgétaires ou médiatiques. Voilà. Et donc, quand on est une petite marque qui n'est pas ou peu médiatisée, finalement, on peut pas espérer gagner un grand combat médiatique. Et donc, en ce sens, bah, il faut être malin et adopter une stratégie différente et différenciante. Alors voilà, c'est toutes les façons dont on peut appeler ça la disruption.
Super. Ouais, et moi, je trouve que c'est un thème super, super intéressant parce qu'effectivement, c'est un thème qui permet, enfin, c'est une technique marketing qui permet d'être très, très agile et de proposer de la créativité, peut-être même plus de créativité que ce qu'on peut avoir de façon, je dirais, plus classique dans une campagne de marketing lorsqu'on a peut-être plus de plus gros moyens ou qu'on cherche à travailler plus classiquement. La raison pour laquelle on parle de disruption, bizarrement, vous êtes directrice marketing de Volvo Car, donc on ne parle pas de tout petit budget, a priori. sauf que quand même, vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, que vous, chez Volvo, la disruption, ça faisait vraiment partie de vos stratégies marketing, voire même, c'est presque une philosophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Volvo et la disruption, ça fonctionne ensemble?
Parce que aujourd'hui, on est certes une grande marque internationale. Certes, on le sait, le marché automobile est plutôt un gros investisseur en termes de communication. Maintenant, au sein de ce marché, nous, Volvo, on est tout petit. Si on prend les chiffres de la France, on représente 20% de part de marché en France, là où les grandes marques nationales vont flirter avec les 20% et nos concurrents premium allemands sont, eux, aux alentours de 3 ou 4% de part de marché. Et ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai pour le reste du monde. On est un constructeur qui aujourd'hui produit moins d'un million de véhicules sur le marché de l'automobile dans le monde, ce qui fait nous un tout petit dans un marché où il y a des géants. Donc certes, je ne vais pas aller pleurer sur les moyens de communication que je peux avoir aujourd'hui, mais face à mes concurrents, je ne peux pas réfléchir juste en me disant je vais investir et investir plus parce que c'est un combat que je ne peux pas gagner. Donc forcément, ça nous amène à penser différemment. Et le point de départ de toute cette réflexion, c'était de se dire, on est plus petit que tous les autres. Assez mécaniquement, on a moins de moyens que les autres. Donc, si on continue de faire exactement la même chose que ce que font les autres en 3 ou 4 fois moins gros, on continuera d'être 3 ou 4 fois moins vu et on restera d'être 3 ou 4 fois moins gros, voire même on va décroître au fur et à mesure parce que mécaniquement, les plus gros vont étouffer de plus en plus la présence. Donc, oui, dans notre position, on doit se dire qu'on est différent. Et puis, c'est vrai que la disruption chez Volvo, même en soi, on est disruptif. La marque Volvo, d'abord, on est le seul constructeur suédois. Ça fait nous, on est un des derniers constructeurs où on est l'unique marque du marché. Donc, en soi, ça fait déjà de nous une différence. Et puis, les Suédois, dans leur approche, ils sont disruptifs. Ils sont disruptifs parce que c'est un marché très intéressant. Mais ça reste un petit pays, c'est 10 millions d'habitants la Suède, et pour autant, quand on voit le nombre de marques qui ont été capables d'exploser, je rappelle que H&M est suédois, que IKEA est suédois, Spotify est suédois, enfin c'est une marque, c'est et tout ça, ils ne peuvent y parvenir qu'en ayant une approche qui soit un petit peu différente.
Ouais, c'est ça. C'est si on continue à faire exactement comme les autres, finalement, soit on est le plus gros, on a les plus gros budgets et on va pouvoir matraquer entre guillemets le marché et être vu. Si on est plus petit, même tout en étant gros comme Volvo sur un énorme marché comme l'automobile, si on est plus petit et qu'on continue à faire exactement comme les autres, finalement, on ne sera pas vu. Donc c'est contre-productif. C'est super intéressant. Mais alors du coup, moi j'ai dû. Exactement. Mais alors, j'ai du mal à voir si vous pouvez nous donner un exemple. C'est quoi une campagne disruptive de Volvo ? Qu'est-ce que Volvo fait ? Qu'est-ce que c'est une campagne disruptive ?
D'abord, avant de partir sur Volvo, je vais donner une précision. Alors, je parlais de la disruption par TVWA. Il y a un auteur de bouquin marketing. Maintenant, il y a quelques années, et je pense qu'il y a des plus actuels, mais que j'aime beaucoup, qui est Seth Godin, qui était un ancien responsable du marketing chez Yahoo, ouais, qui a écrit un bouquin que j'adore. Alors en France, c'est La Vache Pourpre, mais et je pense que c'est le meilleur exemple de la disruption. C'est qu'à un moment, si vous passez régulièrement devant un troupeau de vaches, Bon, ok, vous allez voir qu'il y a un troupeau de vaches éventuellement, au bout d'un moment vous ne verrez même plus, mais vous serez incapable de dire qu'il y avait une vache plus grosse que l'autre, ou une plus petite, ou une différente, etc. Et puis surtout, vous allez rentrer, vous allez oublier aussi vite que vous avez vu vos vaches et vous n'en parlerez plus. Si demain on arrive à avoir une vache qui est mauve ou violette au milieu de ce champ, je peux vous assurer que vous allez la remarquer immédiatement. Vos yeux vont être tout de suite captés. Vous n'allez plus voir les autres vaches. Vous allez voir que cette vache violette, même si elle est beaucoup plus petite et presque un peu plus dans le fond. Et puis, en plus, même vous allez en parler. Vous allez rentrer en disant, ah, j'ai vu une vache violette. C'est-à-dire que ce qui est fantastique, en plus, avec cette approche disruptive en termes de communication, c'est que non seulement elle permet de se différencier et d'émerger, mais quelque part, là où avec beaucoup de médias, on va être dans une stratégie push, c'est-à-dire je diffuse mon message, je pousse mon message, je pousse mon message. Avec la disruption, vous pouvez même passer dans une stratégie pull, c'est-à-dire que les gens sont tellement interloqués qu'ils peuvent venir à vous et venir voir parce qu'ils ont envie de voir ce truc dont on leur a parlé qui est très différent. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et si je prends Volvo, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, alors oui, bien sûr, on a été une marque où, quand on a dit bah, on arrête de faire exactement la même chose que les autres, il y a une des premières décisions qui a été prise, qui était de dire bah, on va arrêter d'être sur tous les salons automobiles, parce que ça, c'est une convention du marché. Quand on est un constructeur automobile, il faut aller sur le Mondial de Paris, il faut aller en Allemagne, il faut aller à Détroit, il faut aller. Voilà. Mais on arrête parce que ça coûte une fortune et on est systématiquement plus petit que les autres. Bon, ben, la stratégie, c'est qu'on arrête, on prend un salon sur la zone APAC, un salon sur la zone Amérique et un salon sur la zone Europe. Nous, en l'occurrence, on a choisi Genève parce qu'il n'y a pas de constructeur local, donc on est à tous au même niveau. Et on met tous nos moyens, on concentre tous nos moyens. Et sur ces salons-là, non seulement on n'est pas le plus petit, on est au moins à armes égales avec les autres, voire on arrive même à être plus gros. Je peux vous assurer que quand on a décidé ça, l'ensemble du marché a dit, vous êtes mort. Il est impossible en tant que constructeur de
C'est
survivre en
sûr.
France sans être au mondial de l'automobile. Bon, je pense qu'on n'a jamais autant parlé, nous, sur un mondial que le jour où on a décidé de pas y aller. Là où avant, on ne parlait pas nous parce qu'on était tout petit. Mais après, ça, c'est une première démarche de disruption. Mais après, en allant plus loin, là, il y a eu le dernier salon. Enfin, ensuite, notre approche des salons était de dire, normalement, quand on est sur un salon, il faut l'amortir. On montre tous ses modèles, on montre tout ce qu'on a à vendre, on met en avant toutes ces nouveautés, etc. Nous, quand on est allé, quand on a présenté le renouveau de la gamme, notamment avec le lancement d'un modèle qui a été le premier modèle qu'on a relancé, qui était le XC90, et ben on est arrivé sur un salon, on a fait un grand salon. Alors, c'est très à la suédoise en termes de design, très grand salon avec une voiture dessus, un modèle. Ce qui est
Oh.
complètement à l'encontre.
Une seule.
Une seule.
Ouais.
Le truc qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a eu un bouche à oreille là-dessus et tout le monde venait voir notre stand. Parce que tout le monde voulait voir ce que ça donnait un stand sur lequel il n'y avait qu'une seule voiture. C'est là où je dis que non seulement ça permet d'émerger sur les gens qui passent comme ça, mais ça permet même d'attracter, de faire venir des gens qui vont avoir envie de voir, mais ça ressemble à quoi ce truc? Et on a été encore plus loin après, puisqu'on a fait un salon où on a été un chou plus loin parce qu'on est dans une approche aujourd'hui d'un métier qui, avant, on vendait des voitures. Aujourd'hui, face à toutes ces générations, X, Y, Z, tout ce que vous voulez, on est de plus en plus sur proposer des solutions de mobilité plus que de vendre une voiture. Et on a voulu aller jusqu'au bout de ce concept en disant, nous, on est presque plus un fournisseur de services qu'un vendeur de voitures. Et le salon suivant qui a eu lieu aux États-Unis, on n'a pas montré de voiture du tout, on a fait une exposition d'œuvres. En
Ah,
disant, mais
d'œuvres d'artistes.
d'œuvres d'artistes. Parce que bah, finalement, c'est le bout du bout. On n'a rien à proposer, on n'a rien à vous présenter parce que ce qu'on vous vend, ce n'est pas une voiture, c'est une solution de mobilité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Et puis, quelque part, la promesse que l'on faisait derrière, c'était de fa faciliter la vie des gens dans leur mobilité. Et faciliter la vie des gens, ça veut dire aussi plus de temps pour aller profiter de quelque chose de différent, comme une exposition
Ah,
d'art.
j'adore.
Voilà. On a eu un nombre de papiers absolument hallucinants et des
Ah ouais,
retombées
mais bien
médiatiques,
sûr.
mais énormes. Alors après, la difficulté, c'est qu'il faut toujours trouver une nouvelle idée, une nouvelle histoire. Mais ça, c'est une approche. Alors là, je vous parle de grands salons internationaux. Bien sûr, on part quand même d'une marque où, même si on est plus petit que les autres, on a des moyens de communication qui sont importants. Mais vous pouvez retranscrire cette stratégie sur n'importe quelle problématique, sur n'importe quel type de société et quelle que soit sa taille. Parce que il y a toujours une démarche qui consiste à pouvoir être différent d'un flot de conventions. Moi, je pense que l'épicerie du quartier, si vous regardez, il y a des conventions. Quasiment toutes les boucheries ont une devanture qui se ressemble un peu, avec des codes coloriels qui se ressemblent un peu. D'un seul coup, si au lieu d'avoir cette espèce de Vichy rouge et blanc, ces couleurs rouges, la rôtisserie devant, etc., et la belle viande en vitrine, et si d'un seul coup, vous faites, je sais pas, une vitrine où vous recréez un champ de vaches, enfin, je reviens avec mes vaches, mais vous mettez de l'herbe et vous mettez une vache, bah, d'un seul coup, on va s'arrêter, on va la voir. D'un seul coup, cette vitrine, elle va attirer votre œil. Donc, c'est à quelle que soit la taille de son entreprise, qu'on soit en lancement, qu'on soit en relancement, ce qui était le cas de Volvo quand on a pris ce virage en 2014, où on relançait la marque et on voulait absolument changer notre façon d'être, de communiquer, que ça soit parce qu'on est un petit sur un marché de gros, parce qu'on est limité en termes de moyens. Quel que soit son niveau, l'approche par la différenciation, elle est possible et envisageable.
Ouais, c'est ça que je trouve vraiment super intéressant dans cette approche-là, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut complètement dupliquer. Enfin, je pense aux personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être, je sais pas, une petite entreprise de service, peu importe. C'est quelque chose qu'on peut complètement dupliquer assez facilement. Et surtout, si je reprends ce que vous disiez sur les salons et les décisions qui avaient été prises par Volvo, on gagne sur plusieurs. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant. On gagne sur plusieurs plans. C'est-à-dire que d'une part, on va faire quelque chose qui est non conventionnel, comme par exemple décider de ne pas venir au salon au mondial de l'auto à Paris. Donc on va parler de nous parce qu'on vient pas, justement, ce qui est quand même assez génial. Pour le coup, on dépense pas d'argent, on ne vient pas et on va avoir des papiers parce qu'on ne vient pas, parce qu'on a fait quelque chose de non conventionnel. Mais en plus de ça, et ça j'avais pas en tête, je trouve ça super intéressant, du coup ça vous laisse une part de budget. Alors bien sûr, chez Volvo elle est plus intéressante que dans une petite PME, mais peu importe, c'est pas la question. C'est que tout votre budget qui était disponible, qui n'a pas été utilisé pour aller sur les différents salons, et ben vous pouviez le focaliser sur un seul salon. Et là, de petit, entre guillemets, de l'automobile, ben sur ce salon-là, avec ce budget-là qui n'était pas disséminé entre plusieurs salons, d'un coup, vous passiez de petit à gros. Donc, je trouve toute la mécanique de ces stratégies de disruption vraiment super, super intéressante. Vous me disiez, quand on en parlait en préparant, que quand même il y avait des éléments à prendre en compte pour créer une stratégie de disruption, et notamment d'identifier ces fameuses conventions dont vous parliez, notamment sur par exemple la boucherie. Comment est-ce qu'on fait du coup? On brainstorm et on se dit mais comment fonctionne notre marché, c'est ça?
La première phase c'est de benchmarker ce que font ses concurrents direct et son environnement concurrentiel direct. C'est le seul moment où on va s'intéresser à ce que fait le secteur. Mais il faut commencer par regarder ce qui est fait et d'identifier les conventions, c'est-à-dire d'identifier tous les points de similitude dans la manière de discourir, de se positionner, de se présenter. Ça va être l'identification des conventions et de voir qu'est-ce que tout le monde fait de la même façon. Donc, ça, c'est déjà une chose qui est, si je fais ces choses-là, je ne vais faire que me mettre au même niveau que les autres. Une fois qu'on a identifié les conventions, il y a un travail qui est important, c'est d'identifier les conventions qu'on peut challenger et celles qui ne sont pas challengeables. Il y a des choses où on peut potentiellement il y a des choses qui sont pas challengeables, il y a des choses qui peuvent toucher à différents sujets, qui soient d'ordre médical, des sujets d'ordre médicaux, religieux. Enfin, il y a différentes choses où il faut faire attention. Il y a les choses qui sont challengeables et pas challengeables. Après, il y a des choses où on a l'impression qu'elles ne sont pas challengeables, elles le sont. Si je prends le Mondial de Paris, tout le monde nous avait garanti notre mort au tournant parce qu'on n'était pas au plus grand salon mondial.
Oui.
Cette décision, elle a été prise en 2014. Sur les 5 dernières années, Volvo a doublé ses ventes en France et dans le monde. Donc, alors je dis pas que c'est parce qu'on est plus au salon, c'est une stratégie disruptive globale qui a permis ça et puis le relancement de la gamme. Mais en tout cas, il faut quand même, il y a des conventions qui semblent très fortes qu'on peut challenger quand même. Mais il y en a, il faut faire attention. Il y a des sujets, on peut pas les challenger. Après avoir identifié les conventions, il va, enfin, après avoir identifié donc ces conventions, regarder ce qui éventuellement faut pas toucher parce que c'est le béaba. Il va y avoir d'autres conventions et là, on va se poser la question de savoir comment on peut les challenger. Point important, point très important, la disruption, elle n'est pas faire différent pour faire différent. Le point, il est faire différent pour émerger, mais tout en s'assurant que la façon dont on fait différent vient quand même porter notre marque, est en phase avec son ADN, est en phase avec ses clients potentiels ou ses prospects, et est en phase avec le discours de la marque. Quand on passe au fait de, par exemple, quand on met qu'une seule voiture sur le salon, d'ailleurs, je l'ai dit assez, un des points de l'ADN de Volvo, c'est qu'on a des modèles qui, dans leur design, ont ce côté très suédois, très design suédois, très aseptisé. On n'est pas du tout, quand on monte dans un de nos véhicules, l'approche est différente de dans d'autres véhicules parce qu'on retrouve nos gènes et nos racines suédoises. Quelque part, ne mettre qu'une seule voiture sur le salon, ça allait aussi dans le sens de notre ADN, enfin, au-delà de la logique d'émergence. Et ensuite, quand on va faire une collection d'œuvres d'art, enfin, quand on en fait une expo d'œuvres d'art, ça allait aussi par rapport à notre message qui était, nous, ce qu'on fait, c'est vous faciliter la vie pour que votre mobilité et la voiture, ça soit moins painful dans votre vie et que vous ayez plus de temps à consacrer à d'autres choses. Donc, c'est important, il faut pas juste chercher à faire différent pour faire différent ou pour émerger parce que certaines campagnes de certaines marques, notamment une marque de Jules Verne italienne, ont pu montrer que de temps en temps, on peut aussi se planter. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il faut pas bouger. Mais après, il faut aussi être humainement costaud. Il faut avoir quelques années pour se souvenir de ça, parce que c'est une communication qui date plutôt des années 90. Il y a eu une grande marque de lessive qui a axé pendant des années sa communication sur la mise en scène d'une famille de singes.
Oui,
voilà. Exactement. Il faut savoir qu'en pré-test, la campagne avait été descendue. Mais ils ont décidé d'y croire quand même. Oui, la campagne avait été descendue en pré-test. Il se trouve qu'ils y ont cru, ils y sont allés quand même. Ça fut un peu un choc parce que à la base, quand on parle de lessive, on doit parler de propreté, on doit être dans un climat un peu aseptisé, de la blancheur. Or, un singe, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier pour penser propreté, sain, aseptisé, etc. Pour autant, ils ont utilisé cette famille de singes pour communiquer autour de la propreté. Mais ce choix, il a permis à la marque d'émerger et tout le monde se souvient de cette pub. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle le contexte dans les années 90, toutes les pubs étaient pareilles. C'était, mais comment ça? Vous connaissez pas? Enfin, Coluche était pas loin de la réalité dans ce qu'il mettait en scène. Ouais. C'était toujours la tâche qui partait pas avec une lessive A, mais qui partait mieux avec la lessive B. Au final, personne ne se souvient de la marque. Alors que, pour ceux qui étaient en âge de comprendre dans les années 90, je pense que tout le monde se souvient de cette pub Omo et qui a d'ailleurs été là pendant très longtemps. Donc il faut être assez fort, il y en a et y aller. Et après, une fois qu'on a donc on a identifié les conventions, on s'est dit ok, il y en a deux trois qu'il faut pas toucher, ok. On a regardé ce qu'on pouvait challenger. Il va falloir travailler à comment est-ce que je fais pour trouver des idées de disruption, parce que c'est pas si facile que ça, puisque disruption, c'est faire différemment, c'est pas faire l'opposé systématiquement, donc ça demande derrière quand même un peu de créativité. Et là, cette créativité, moi j'invite tous les gens qui peuvent avoir envie de travailler là-dessus. Alors soit vous avez les moyens suffisants pour vous faire accompagner par des sociétés qui sont spécialisées là-dessus, qui vont animer des sessions de créativité. Donc oui, en général, c'est moment de purge au début pour sortir toutes les fausses bonnes idées qui arrivent en premier, et puis ensuite vous emmenez très loin pour vous ramener vers la problématique. Soit vous le faites tout seul, et c'est tout à fait possible parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées, surtout quand. Voilà. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est entourez-vous le moins possible de spécialistes. Parce que plus vous êtes spécialiste d'une problématique, plus votre réflexion va être limitée par la prise en compte, consciente ou inconsciente, des contraintes. Voilà. Donc, si vous ne travaillez qu'avec des commerciaux, des financiers et des gens du marketing, toutes les idées que vous allez pouvoir avoir, elles vont être entre guillemets un peu auto-bridées par la prise en compte de toutes les contraintes qu'on peut envisager et de tout ce qu'il peut y avoir. Or, au contraire, il faut aller chercher la personne qui travaille à l'accueil, il faut aller chercher dans tous les services et départements possibles. Le seul point qui compte, c'est la personnalité de la personne. Il faut quelqu'un qui sache rebondir dans un groupe, qui sache travailler en réunion de co-créativité, qui soit pas trop timide, parce que si la personne ne parle pas, ça sert pas. Mais c'est surtout pas son savoir technique qui va être important. Et à la rigueur, moins il aura de savoir technique sur la question qu'on adresse, plus il a de chance de réfléchir sans être bridé.
Si je vais au bout de l'idée, là on est en train de parler pour faire une session de créativité de disruption. Ce qu'il nous faut, c'est créer de la disruption au sein de l'équipe. C'est même aller vraiment au bout du concept et se dire, il faut mélanger les gens et avoir des gens qui viennent d'univers assez divers et variés, et surtout pas notre équipe habituelle qui connaît très très bien le sujet et qui techniquement connaît, qui a l'habitude de travailler là-dessus et qui finalement risque de s'auto-brider, c'est ça?
Oui, c'est ce que je pense réellement. De toute façon, moi, je suis très en guerre, enfin c'est pas en guerre, mais la France a une capacité à être extrêmement traditionnelle et sectorielle dans son approche des métiers. C'est-à-dire que moi je suis un peu l'exception qui confirme la règle en ayant pu passer de l'hôtellerie à l'automobile, mais en général on aime beaucoup recruter dans l'automobile des gens qui viennent de l'automobile et dans l'hôtellerie des gens qui viennent de l'hôtellerie, etc. Or, moi je sais qu'aujourd'hui, certes, dans mon passé et dans mon passif en agence, j'ai eu l'occasion de travailler et d'accompagner côté publicitaire des marques automobiles et des marques automobiles concurrents directs de Volvo. Bien sûr que ça apporte une culture minimum et que ça apporte une connaissance sectorielle, ça aide derrière à prendre un poste plus rapidement parce qu'on a déjà compris certains trucs sur le secteur. Mais aujourd'hui, mon inspiration dans le travail, elle est beaucoup plus basée sur des expériences que j'ai pu avoir par le passé dans l'hôtellerie, dans la téléphonie mobile, dans les transports ferroviaires ou des problématiques comme celle-ci. Pourquoi ? Parce que ce qui va compter, c'est la posture de la société, c'est-à-dire c'est la problématique de la société ou la problématique du produit. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant de prendre des exemples dans une marque qui vient certes du même secteur, mais qui sera pas dans la même problématique au même moment. Être challenger ou être tout petit sur un marché, ça m'intéresse d'aller chercher une marque qui est challenger ou tout petit dans son marché. Et comme en plus le secteur automobile est un secteur qui est en train de beaucoup évoluer, je trouve, d'un point de vue marketing, communication, mais qui pendant longtemps était resté assez conventionnel, assez étrangement dans un métier qui est pourtant tellement basé sur l'innovation et les nouveautés technologiques, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher sur d'autres marchés. Parce qu'encore une fois, ce qui est conventionnel sur un marché ne l'est pas forcément sur un autre. Les conventions, elles sont propres à un marché. Et donc, quelque chose qui peut être devenu presque conventionnel sur certains secteurs peut encore être extrêmement disruptif sur le marché automobile. Et moi, j'encourage le plus possible à brasser et à mixer. Mais je dirais que le fait même, quand je dis que chez Volvo, la disruption ou cette logique de faire différemment est vraiment dans l'ADN de la marque, c'est que le fait même, à un moment, d'aller recruter à la direction marketing quelqu'un qui vient de l'automobile, mais qui vient de l'hôtellerie et avant de la pub, c'est encore une fois la preuve de la disruption. Et je suis pas la seule dans ce cas chez Volvo. Il y a quelqu'un d'autre à la prévente qui vient de la téléphonie mobile. Donc c'est vraiment dans notre ADN et ça passe aussi par les profils que vous mettez en place.
Exactement, c'est dans l'ADN. Ça boucle la boucle, je trouve, avec ce que vous disiez, que je trouve extrêmement important sur il ne faut pas faire de la disruption pour la disruption, et la disruption doit servir le message de la marque. Et en fait, le message de la marque, ça va, dans une société, ça va plus loin que le seul message de la marque, c'est le message de l'entreprise. Et donc, ça passe aussi par les gens qui travaillent pour cette entreprise, les valeurs de cette entreprise et l'ADN, finalement, de l'entreprise en elle-même. On a déjà dit beaucoup...
J'insiste, c'est capital parce que la disruption ne sert qu'à émerger et être vue. et à montrer un message. Derrière, encore une fois, vous pouvez être vu, mais pour montrer des choses qui sont absolument qui pourraient être extrêmement négatives pour votre marque. Le point, c'est de réussir à faire émerger un message, mais un message qui doit rester extrêmement juste et pertinent pour vous.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci, merci beaucoup, Nathalie. On a dit énormément de choses, en fait, dans cet entretien. J'essaye de faire un résumé. C'est un exercice toujours un petit peu difficile, mais j'essaye de faire un résumé en une minute. En tout cas, ce que j'en ressors, moi, ce qui me marque sur ces stratégies de disruption, c'est d'abord que c'est une stratégie extrêmement intéressante pour une marque qui est challenger, et notamment pour des marques à petit budget qui vivent sur des marchés qui sont plus ou moins gros, mais où en tout cas, elles ont des difficultés à être visibles. Et c'est le cas de, je pense, beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent sur ce podcast. Et cette stratégie de disruption va nous permettre, en fait, de faire parler de nous et de focaliser notre budget sur un endroit bien précis de façon à, lorsqu'on utilise ce budget, être peut-être plus efficace. Et puis pour créer cette disruption, ben, la première chose à faire, c'est peut-être d'identifier les conventions sur notre marché. C'est là qu'on va aller regarder ce que font nos concurrents. Puis c'est peut-être la seule fois qu'on va aller regarder ce que font nos concurrents. Mais en tout cas, identifier ces conventions, aller décider quelles sont, parmi ces conventions, celles qui sont challengeables et celles qui sont pas challengeables. Parce que bien sûr, il y en a et voilà, peut-être que ça nous fera plus de mal que de bien que d'aller sur ces conventions-là. Donc, on les met de côté. Et celles qui sont challengeables, il va falloir là rentrer dans un processus de créativité. Moi, qui m'est cher, c'est la partie que je préfère évidemment, rentrer dans ce processus de créativité. Pour rentrer dans ce processus de créativité, il y a plein de techniques, c'est un autre sujet, mais l'un des éléments qui est probablement essentiel, c'est d'apporter de la diversité au sein même de ces équipes, de façon à pouvoir faire émerger de nouvelles idées et ne pas rester dans nos habitudes du quotidien, parce qu'on connaît notre marché. Et puis, bien sûr, dernière chose extrêmement importante, et c'est même l'essence de tout ce sujet de la disruption, c'est attention à la disruption pour la disruption. L'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie de communication qui va servir notre marque, qui va servir les valeurs de notre marque, l'ADN de notre marque, donc toujours retourner sur le profit au message. Est-ce que...
Et absolument tentative... parfait, mais parfait.
Ah, bravo. Je suis ravie. Bon, écoutez, Nathalie, merci mille merci fois d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je sais que quand on est directrice marketing de Volvo Car France, on a un emploi du temps chargé, mais c'était absolument passionnant. Et surtout, ce que je trouve le plus passionnant pour tout vous dire, c'est que des stratégies marketing applicables à une marque aussi connue, aussi grande et qui a un budget aussi énorme, on va se le dire, que Volvo, puisqu'on est quand même sur de l'automobile, on est sur des tout petits budgets, et bien en fait on se rend compte que quand bien même on est dans des univers parfaitement différents, et bien finalement c'est applicable sur beaucoup de marchés, sur beaucoup de tailles d'entreprises, et que c'est peut-être là qu'elle est la disruption, c'est qu'il faut arrêter de penser, de cloisonner les choses, et que finalement peut-être que à peu près tout est transposable et applicable sur nos marchés, donc je trouve la gymnastique intellectuelle extrêmement intéressante.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très intéressant. Et puis, merci d'avoir eu l'occasion de mettre en avant cette technique qui me plaît tant et encore une fois, dont on est très friand chez Volvo. Merci beaucoup, Estelle.
Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. À très bientôt.
Au revoir.
Alors, vraiment, je voudrais remercier Nathalie d'avoir pris le temps de nous parler de disruption. Outre l'intérêt d'une technique de communication qui ne nécessite pas de gros budgets, ce que je retiens de cet épisode, c'est un élément de mindset. Les stratégies des grands groupes peuvent tout à fait être transposables aux petites structures, précisément parce que leur position sur leur marché n'est pas nécessairement celle du grand. Je vous la refais. Les stratégies des grands groupes peuvent tout à fait être transposables aux petites structures, précisément parce que leur position sur leur marché n'est pas nécessairement celle du grand. C'est le cas de Volvo, qui a beau être un grand groupe, sur son univers concurrentiel, ça n'est pas un grand, c'est un challenger. Et ça change quoi? Eh bien, ça change la vision que l'on doit avoir de nous-mêmes quand on pense qu'on n'a pas assez de budget, qu'on est trop petit, quand on se sent noyé parmi la concurrence. Tout est question de mindset. Alors d'abord, être petit, ben, ça ne veut rien dire en soi. La question, c'est petit par rapport à quoi ? Et puis ensuite, être petit ou avoir peu de budget, eh ben, ça n'a jamais empêché d'être visible. En revanche, ça demande peut-être un peu plus de créativité. Mais ça, si vous voulez mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne fait que rendre notre travail plus intéressant. Alors j'espère que vous avez apprécié cet échange autant que moi. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aidez-moi à faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre. Le moyen le plus simple pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples, vous le savez. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible sur les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Et puis dernière chose, souvenez-vous, à partir de maintenant, le podcast du marketing, c'est toutes les semaines. Donc prochain épisode, jeudi matin. Je vous dis à très vite.